Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Quand tous les Européens de l'Est ont les yeux rivés sur l'actualité ukrainienne, ça donne des initiatives intéressantes. Des soutiens qui prennent des chemins détournés qui ne sont pas ceux de la diplomatie. À Prague, par exemple, des anonymes ont choisi de débaptiser toutes les rues qui portent le nom d'une ville ou d'une région ukrainienne. À la place, on peut lire toujours la même chose. Rue de la Russie, suivi d'un point d'interrogation. Anecdotique, pas tant que ça, au regard de l'histoire de la ville. C'est ce que nous raconte depuis Prague Alexis Rosenzweig.
Difficile pour un étranger ces derniers temps de se repérer dans ce quartier du 10e arrondissement de Prague. Sans GPS, pas sûr de pouvoir trouver l'adresse recherchée, avec des rues portant toutes le même nom, suivi d'un point d'interrogation. Ruska, ou rue de la Russie, voilà comment ont été rebaptisées le mois dernier les rues de Crimée, de Sébastopol et de la Mer Noire, en signe de protestation contre la politique de Vladimir Poutine en Ukraine. Les États baltes ne sont pas en reste, la plaque de la rue voisine de l'Estonie a elle aussi été maquillée. Personne n'a revendiqué ce happening urbain, assez inoffensif mais hautement symbolique, dans cette ville de Prague, prisée et prise dans l'histoire récente par ses deux envahisseurs de voisins, l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. En 1945, lors du soulèvement de Prague contre la Wehrmacht, les résistants tchèques avaient notamment arraché les plaques des rues et les panneaux écrits en allemand. 23 ans plus tard, en 1968, c'est l'écrasement du printemps de Prague par les troupes du pacte de Varsovie et les tchèques changent ou peignent le nom des rues pour que se perdent les chars venus normaliser la situation selon les termes employés au Kremlin. Au-delà du symbole historique, cette récente modification du nom de quelques rues pragoises est l'une des manifestations de solidarité avec les Ukrainiens organisées ici, sous différentes formes, avec des rassemblements devant les ambassades, mais aussi des initiatives gouvernementales, comme la prise en charge de personnes blessées lors de l'intervention meurtrière sur la place de l'indépendance de Kiev, transportées en avion militaire spécialement affrété et soignées dans des hôpitaux de la capitale tchèque, Prague, où vivent de nombreux Ukrainiens venus y travailler et où ces dernières années, certaines personnalités, dont le mari de Yulia Tymoshenko, ont obtenu l'asile politique.
Et en Bulgarie, on suit aussi de très près la mobilisation ukrainienne et les tensions séparatistes dans l'est du pays. Pas seulement parce que des milliers d'Ukrainiens vivent à Sofia, mais parce qu'une communauté de 200 000 Bulgares est installée en Ukraine, plus précisément en Bessarabie, depuis des siècles. Quel est l'écho de la crise ukrainienne à Sofia? C'est le reportage de Damien Vedenicharov.
Les Ukrainiens forment une petite communauté de quelques milliers de personnes en Bulgarie, mais une petite communauté disparate. On trouve des pro-russes autant que des pro-européens, des russophones et des ukrainophones, mais tous se disent unis par le patriotisme. Comme Olia, née à Zaporijia, une ville russophone à l'est du pays. Sa famille est venue en Bulgarie en 1991, lors de la dissolution de l'Union soviétique. Ce qui inquiète surtout Olia, c'est l'avenir de sa ville natale. Elle se trouve à 200 km de Donetsk, déjà secouée par le séparatisme.
Donetsk n'est pas intéressante pour la Russie. Notre région est beaucoup plus stratégique parce qu'il y a la métallurgie, le secteur automobile et les chantiers navals. Cette ville est donc beaucoup plus attrayante pour la Russie que Donetsk. J'ai vraiment peur que les militaires se rendent là-bas près de ma famille.
Les proches d'Olia ne sont pas encore prêts à quitter leur pays. Sa réponse est cependant sans équivoque lorsqu'on lui demande si sa famille pourrait les accueillir.
On n'y pense pas encore, mais si cela doit arriver, on les aidera avec ce qu'on peut. Ce n'est pas facile de quitter le pays, ce sont des gens qui ont un travail, qui sont à la retraite aussi. Ça fait des années qu'on invite une partie de notre famille à nous rejoindre ici. Ils n'ont pas voulu le faire jusqu'à présent, mais peut-être que ça va changer.
Les autorités bulgares se sentent également très concernées par la crise ukrainienne, en raison de la forte minorité bulgare qui y est installée. 200 000 personnes qui pour la plupart résident en Bessarabie, située au sud-ouest, et partagée entre l'Ukraine et la Moldavie. La présence de Bulgarie est forte depuis la fin du XVIIIe siècle, suite aux guerres russo-turc. Maxime est né en Bessarabie. Après plusieurs va-et-vient en Bulgarie et ailleurs, il a décidé de s'installer à Sofia il y a 6 mois à peine. À cheval entre ses deux identités, il vit ce conflit comme un vrai déchirement, y compris avec ses parents.
Il y a des différences d'opinion, même dans ma famille. Ma mère et mon père ne soutiennent pas du tout l'Union européenne. Ils n'ont jamais vécu en Bulgarie. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils se rappellent les bons vieux temps de l'Union soviétique et ça leur manque. L'Ukraine indépendante ne leur a rien apporté. Pour eux, c'est donc normal que la Russie vienne en aide.
Pour Maxime, l'histoire a son mot à dire. La Russie de Vladimir Poutine prétend défendre l'identité de la minorité russe en Ukraine, mais c'est sous le régime communiste que les minorités étaient le plus écrasées.
Aujourd'hui, la communauté bulgare d'Ukraine n'est pas inquiétée. On apprend la langue, on transmet la culture. C'est justement quand le pays est devenu indépendant que nous avons commencé à apprendre le bulgare. Mais dans les années 50, un professeur de bulgare s'est retrouvé en prison pour avoir envoyé une lettre à Moscou dans laquelle il avait proposé d'étudier le bulgare dans la région.
La Bulgarie est d'ailleurs souvent perçue comme le pays de l'Union européenne le plus proche de la Russie. Elle est fortement dépendante du gaz et du pétrole russe, à tel point que le gouvernement n'ose hausser le ton face au Kremlin, ni même soutenir des sanctions de la part de ses partenaires européens. Le Premier ministre Plamenor Echarski a même évoqué un veto au niveau européen. Les partis bulgares d'extrême droite soutiennent également la Russie tout en s'opposant à l'Union européenne. Le parti Ataka, qui joue le rôle de pivot dans le Parlement actuel, a même menacé de faire tomber la coalition au pouvoir menée par les socialistes si le gouvernement décidait de soutenir des sanctions contre Moscou. Lors de la visite officielle du secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, une vingtaine de jeunes nationalistes a même manifesté contre l'Alliance et l'Union européenne à Sofia. Au sein de ce petit groupe, certains brandissaient des drapeaux russes ou soviétiques. Tous soutiennent l'annexion de la Crimée. Certains voudraient même suivre cet exemple.
La Russie me plaît. Poutine et sa politique aussi. Je veux peut-être que la Bulgarie fasse partie de la Russie. Je soutiens ce qui se passe en Ukraine.
Que la Bulgarie fasse partie de la Russie, c'est peut-être trop, mais nous partageons notre culture et notre civilisation avec la Russie. Nous avons la même foi, le même alphabet, il y a des liens culturels étroits, des liens spirituels étroits avec les Russes.
L'Ukraine voisine et la Russie si proche n'ont pas fini d'envenimer le débat politique bulgare.
L'Europe ne se fera pas d'un coup. Elle se fera par des réalisations concrètes.
En France, les femmes soldats pourront désormais obtenir condamnation et réparation pour harcèlement physique ou moral devant les tribunaux militaires. Une grande première après des années de tabous et qui répond à une féminisation de l'armée. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron, directeur du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
L'armée française déclare donc la guerre au harcèlement sexuel.
Si ce n'est la guerre, c'est au moins une bataille contre la discrimination et les violences faites aux femmes dans les rangs de l'armée. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a présenté son plan d'action pour lutter contre les violences envers les femmes militaires. On revient de loin quand on sait que le harcèlement n'était jusqu'à présent même pas condamnable par la justice militaire. Et il était temps, car la présence grandissante des femmes va de pair avec des discriminations persistantes envers elles, allant du harcèlement verbal jusqu'aux violences physiques et même au viol. Mais jusqu'à présent, la loi du silence était la règle au sein d'une armée fidèle à sa réputation de grande muette.
En France, mais ailleurs aussi en Europe, toutes les armées se féminisent.
L'armée française est l'une des plus féminisées du monde. Ses 60 000 femmes représentent 15% de l'effectif total. Dans l'armée de l'air française, elles sont même plus de 20% et près de 60% dans les services de santé. En revanche, les postes de commandement leur échappent toujours. En 2013, seuls 3,5% des généraux sont des femmes. Outre-Rhin, les Allemandes n'ont accès à l'ensemble des carrières militaires que depuis 2001. Selon le ministère de la Défense allemand, la Bundeswehr compte 18 000 soldats, soit 10% de ses effectifs. La nouvelle ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, première femme à occuper ce poste, s'est fixée comme objectif d'atteindre à terme 15% de femmes, comme en France. Alors la Bundeswehr compte 2800 femmes officiers. Toutefois, leur présence est encore très mal acceptée par les hommes, comme le prouve une enquête récente révélant que 57% des soldats estiment que les femmes détériorent le travail de l'armée. Et quand on interroge les soldates, 55% disent avoir été victimes au moins une fois d'un harcèlement sexuel. Par ailleurs, en 2013, 64 plaintes ont été déposées pour harcèlement, soit une hausse inquiétante de 20% par rapport à 2012.
Aux côtés de la France, l'autre grande armée européenne, c'est celle du Royaume-Uni. Les femmes y sont-elles mieux acceptées ?
Le nombre de femmes dans les forces britanniques progresse d'année en année. Ainsi, aujourd'hui, près de 10% des effectifs de l'armée britannique, soit 16 450 militaires, sont des femmes. Et pourtant, elles ne sont pas jugées aptes au combat au front, ou plus précisément, comme l'indique le règlement militaire, de s'approcher de l'ennemi et de le tuer en face à face. Elles bénéficient en revanche de 52 semaines de congés maternité et ne peuvent être redéployées dans les 6 mois suivant leur accouchement. Et au Royaume-Uni comme ailleurs, les violences faites aux femmes militaires sont courantes. En 2005, la défense révélait ainsi que 15% d'entre elles avaient subi un événement traumatisant allant du commentaire sexuel jusqu'à l'agression.
Et dans un pays comme l'Espagne, qui a connu la dictature militaire, l'armée s'est-elle également ouverte aux femmes ?
Depuis 1988, soit 13 ans après la mort de Franco, les femmes peuvent s'enrôler dans l'armée espagnole. Mais ce n'est que 11 ans plus tard, en 1999, qu'elles ont eu le droit d'intégrer les unités de combat. 12% des effectifs de l'armée, soit environ 15 000 militaires, mais seulement 7% des officiers et 3% des sous-officiers sont des femmes. Notons au passage que l'armée espagnole est beaucoup plus féminisée que l'armée italienne, où les femmes ne représentent que 3% des effectifs. Il est difficile de faire l'état des lieux, des violences dans l'armée espagnole, car comme sous le franquisme, les jugements des tribunaux militaires ne sont toujours pas rendus publics en Espagne. De plus, il est impossible de savoir s'il s'agit de harcèlement ou de viol, puisque le code pénal militaire espagnol ne reconnaît même pas ces délits. Une réforme de la justice militaire serait cependant dans les cartons. Mais ce qui est nouveau, c'est que les femmes militaires n'ont plus peur de parler. Elles dénoncent notamment les comportements machistes et les attouchements ou viols et mises à pied abusives, comme celle récemment d'une femme hospitalisée pour un avortement. Pour la plupart, ces abus n'ont été que très légèrement sanctionnés. Preuve qu'en Espagne, comme ailleurs, les militaires ont bien du mal à s'adapter à l'évolution de la société. C'est bien le mauvais côté des traditions.
Merci Daniel Vigneron. On vous retrouve la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Un nouveau coup dur pour la culture italienne, déjà meurtrie par des coupes budgétaires à répétition. Cette fois, c'est un centre culturel alternatif, l'Angelo Mai, qui doit mettre la clé sous la porte. L'Angelo Mai, c'est une scène de référence pour le théâtre et la musique, qui est aussi devenue, au fil de ses 10 ans d'existence, un centre social pour les familles en attente de logement. Cette fois, ce ne sont pas des coupes budgétaires, mais une décision de justice qui lui assène le coup fatal. Un concert de soutien a été improvisé dans un parc public pour demander la libération du centre. Reportage à Rome, signé Mathilde Villain.
Noi non siamo qua perché siamo con l'Angelo Mai, ma siamo qua perché siamo dell'Angelo Mai.
Du haut d'une scène improvisée dans un parc public transformé en petite Woodstock, le chanteur vedette des célébrissimes After Hours prête main forte au collectif d'artistes à peine expulsés de leur structure occupée. Plus de 5000 personnes ont accouru à ce concert de soutien pour demander la libération de l'Angelo Mai, un des rares espaces culturels alternatifs de la capitale italienne. Manifestation pacifique sous étroite surveillance des CRS.
Attention, ici on fait du trafic international d'idées socialement utiles. Ça, c'est très dangereux.
L'Angelo Mai, c'est un centre social, comme on en trouve un peu partout en Italie, un squat culturel, autogéré et autofinancé. Né il y a 10 ans dans un couvent abandonné en plein centre historique de Rome, l'Angelo Mai était devenu un lieu de vie pour des familles en attente de logement social. En 2006, il est expulsé et relogé 3 ans plus tard dans un ex-boulodrome au terme de Caracalla, puis expulsé de nouveau le 19 mars dernier. Giorgina Pilozzi, metteur en scène et cofondatrice de l'Angelo Mai, est inquiète.
Le problème réel est que la fermeture de l'Angelo Mai peut devenir la première d'une série très très dangereuse pour Rome et pour l'Italie. Il faut se demander pourquoi on a fermé l'Angelo Mai. C'est évident que les expériences de centres sociaux ont quelque chose qui n'est pas légal. Ça, c'est évident. On est en occupation, et etc. Mais c'est évident aussi que En Italie, il y a quelque chose qui n'est pas légal du tout par rapport à la gestion de la culture. Il n'y a jamais vraiment une politique culturelle depuis plusieurs années.
Toute la culture indépendante en Italie passe par les centres sociaux, explique Georgina, seules organisations capables de faire de la résistance à la culture commerciale et aux produits toujours les mêmes qui monopolisent théâtres, cinémas et médias en Italie. Les autorités politiques tolèrent ces structures occupées, soutiennent moralement leur travail de création et de programmation, mais la relation ambiguë ne tient qu'à un fil. Ignazio Marino, le maire de Rome, a d'ailleurs vite fait de se retrancher derrière les décisions de la magistrature.
L'Angelo Mai est une structure que la commune de Rome avait confiée à ses fondateurs pour des activités culturelles. J'ai rencontré le procureur pour tenter de comprendre quel parcours légal entreprendre pour rouvrir ce centre culturel. Nous n'avons pas oublié l'importance qu'il peut avoir pour Rome, mais nous voulons seulement suivre la procédure légale.
Ces squats, ou plutôt ces occupations, se multiplient ces derniers temps à Rome, à la fois symptômes et réponses des jeunes face à la crise économique et sociale. Et selon Georgina Pilozzi, les centres sociaux qui s'y créent sont aussi des opportunités.
Dans ces moments de crise très très forte, la culture qui peut devenir vraiment un moment très important pour la socialisation et surtout pour l'économie de ces pays, vient traiter comme une forme de crime. C'est quand même très grave, cette situation. On n'a pas choisi d'être illégal pour toute la vie, mais on est obligé à rester illégal si on veut faire ce type de culture, parce que la politique ne dialogue pas avec nous.
Les fondateurs de l'Angelo Mai ne capitulent pas. Le collectif aura 10 ans cette année et il continuera non pas d'occuper mais de libérer des espaces pour les transformer en lieux de vie et de résistance culturelle à la crise.
Tutto questo non può finire. Deve continuare. Grazie a voi per essere venuti e per essere stati qui. A presto, arrivederci a tutti.
C'est une drôle de performance que revendique Ed Auben, un Néerlandais de 44 ans. Ce donneur de sperme bénévole ne veut pas rester anonyme. Bien au contraire, il revendique la paternité de 99 enfants. Portrait signé Sabine Sessou.
Ed Auben n'est pas vraiment le donneur de sperme anonyme. Au contraire, il aime faire parler de lui. Il a un site internet sur lequel on peut voir des photos de lui à tous les âges et par le biais duquel on peut le contacter. Il répond volontiers aux questions, surtout si elles tournent plus autour de ses motivations profondes que du côté sensationnel du sexe. Ed Auben couche avec 10 femmes par mois en moyenne pour résoudre leurs problèmes de fertilité. Il les reçoit chez lui et leur propose l'insémination artificielle, mais beaucoup préfèrent la voie naturelle. Il raconte l'histoire de ce couple biélorusse venu le voir à plusieurs reprises. Le mari le laissait coucher avec sa femme dans la pièce d'à côté parce qu'il avait dépassé ce genre de considération, explique le donneur. Le couple voulait un enfant depuis 15 ans, il avait déjà tout tenté. Ed Auben se souvient surtout de leur bonheur quand l'enfant est né. Ce géniteur garde volontiers le contact, il voit environ la moitié de ses enfants. Il dit vouloir aider son prochain sans rien attendre en retour et exerce le métier de guide touristique à Maastricht pour gagner sa vie. C'est lui qui choisit les personnes qu'il veut bien aider. Il refuse les femmes obèses qui boivent, fument ou se droguent. Son critère de sélection est simple, me convaincre que si j'étais votre enfant, je pourrais être heureux, dit-il. Il ne cache pas ses activités à son entourage et affirme se moquer du regard des autres. Avec son centième enfant à venir, il est cependant conscient d'avoir battu un record. Il ne refuse pas l'attention médiatique dont il est l'objet. Désormais, les demandes lui parviennent du monde entier, Chine, Australie et même Angola.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr et sur Facebook. À demain.